Le chasseur de son, c'est celui qui fait de l'enregistrement par plaisir, dans le temps de ses loisirs, et qui de la sorte peut-être peut faire certaines choses que les professionnels n'ont pas le loisir de faire, précisément parce que ils agissent dans les contingences d'un métier, avec des exigences de rentabilité, d'horaires à respecter, etc.
Chasser du son, c'est ce que l'APIEU, l'atelier permanent d'initiative pour l'environnement urbain, a proposé en 2008 à 6 jeunes entre 8 et 12 ans du quartier du Petit Bar de Montpellier. Le but de cet atelier était dans un premier temps de faire sortir les jeunes dans le quartier historique de la ville avec un matériel audio d'enregistrement en vue de produire une émission radio. Pendant cet atelier, élaboré en partenariat avec Essor, une association de soutien scolaire, les jeunes ont donc écouté les différents bruits qui composent la ville, ils ont réalisé de courtes interviews, ils ont tout plus ou moins soigneusement enregistré et ils ont préparé leur intervention pour une émission dans les studios de Radio Pays d'Hérault, une radio basée dans la campagne héraultaise de quoi changer d'air. Sébastien Ledentu de l'APIEU a animé cet atelier, il en précisera le contenu, les attentes et les réussites. Pour se rendre compte de l'activité sonore de l'atelier, eh bien, rien de tel que d'écouter le travail de ces enfants. Et puis nous entendrons aussi des extraits de travaux ayant pour thème les sons empruntés à la ville, réalisés par des étudiants en design sonore de Montpellier.
Le chasseur de son, c'est celui qui fait de l'enregistrement par plaisir, dans le temps de ses loisirs.
Bonjour, Sébastien Ledentu. Donc, je travaille à l'association APIEU depuis 5 ans maintenant, je crois bien. Et initialement, je suis arrivé à l'APIEU pour développer tout ce qui était projet autour de la prise de son et de la découverte de la ville à travers les sons. Donc en parallèle à ça, bah, je m'occupe aussi de la gestion de l'équipe avec le directeur.
Alors donc ce sont des ateliers sonores qui sont destinés à quel type de public?
En 2008, on a fait des ateliers sonores pour les 8-12 ans. Dans le cadre d'un projet financé par le CUX, donc la ville de Montpellier, sur le quartier du Petit Bar. On a travaillé avec l'association Essor, donc une association d'aide aux devoirs, qui est implantée dans le quartier, avec laquelle bah, ça nous a permis de capter un public, un groupe de 6 jeunes, pour partir dans la ville, notamment l'Écusson, et explorer la ville à travers ses sons et faire des interviews des passants.
On a attaché le micro avec
une ficelle et pour que ça tombe pas.
Et on a pris le casque pour écouter
ce qu'on
enregistre.
La particularité sonore de l'Écusson, c'est que comme il y a des grandes façades, des rues étroites, il y a beaucoup de phénomènes sonores, de réflexions sonores, et couplé à un niveau sonore assez faible, vu qu'il n'y a plus de voiture, ce qui fait qu'on entend beaucoup les bruits de son corps, et puis les bruits qui viennent de loin, tout ça pas mal réverbéré. Donc c'était une expérience acoustique pour les enfants de découvrir cette partie de Montpellier où ils ne vont pas forcément habitant au Petit Bar. Donc il y avait déjà une découverte sonore à travers des micros et un casque, ce qui permettait d'avoir un petit peu une écoute privilégiée, vu qu'ils pouvaient augmenter le son des micros et avoir une intensité sonore plus forte, donc entendre des petits bruits qu'ils n'entendaient pas habituellement.
Alors inutile de rappeler qu'ils n'avaient pas en leur possession chez eux, hein, ni un enregistreur numérique comme vous aviez, ni des micros, donc c'est passé forcément par une éducation, déjà de manipulation du matériel, avant même, j'imagine, d'aller écouter ce qui se passait dans la ville.
Alors effectivement, le premier point, c'était de pouvoir aborder le domaine du son, qui connaissent pas, quand on leur parle de on va enregistrer des sons, pour eux c'était, je me rappelle il y a une anecdote, c'était avec Mercedes qui intervient aussi sur le quartier, c'était on présentait le projet en disant bah on va chasser des sons, donc on va être des chasseurs de sons. Il y en a un, Kamel, qui a dit on va chasser du son.
C'est pour une émission de radio.
Sur quoi?
Sur les bruits. Chasseurs
de sons, sur les vampires.
Non, chasseur de son, pas
de
sang.
Donc ils confondaient le son et le sang. Donc il n'y a pas dans le vocabulaire et puis dans leur quotidien, il n'y a pas, ils travaillent pas sur les sons, si ce n'est les musiques. À la radio, on écoute les musiques et à la radio, écouter des sons, surtout des bruits du quotidien, c'est pas du tout dans leurs habitudes. Donc il a fallu petit à petit les amener sur ces domaines-là. Donc leur passer les micros, ils ont joué avec, ils ont parlé dedans. On a pu faire des réécoutes de leur voix. Donc ça, ça a été des préalables importants pour après pouvoir se servir du micro pour enregistrer, non plus pour jouer.
Bonjour. Comment vous appelez?
Je m'appelle Anan.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 8 ans et demi.
J'ai 11 ans et je m'appelle Imad.
Bonjour madame.
Bonjour.
Dis-moi ton prénom et ton âge.
Bonjour. Mon prénom c'est Selma et mon âge c'est 8 ans.
Tu peux me dire ton prénom et ton âge ?
Alors après, ben, forcément, vous les emmenez dans la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont au contact de la ville, de l'architecture, et comment ça se passe pour leur expérience ?
On réalise des balades sonores, qu'on appelle des balades sonores. Donc, soit les yeux bandés, il y a des portions qui sont avec les yeux bandés ou sans bandeau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment se mettre à l'écoute de comment le son se propage dans la ville et comment il vient frapper sur le bâti et donc se transformer. Donc là, avec les micros, ça a permis d'avoir une écoute privilégiée, comme je disais tout à l'heure. Et on a aussi prévu un parcours adapté dans les cuissons pour à chaque fois faire des expériences sonores qui leur permettaient de les mettre en écoute, de prendre conscience de leur environnement sonore. Donc un exemple, quand on était place du Pérou, on est allé au bord de la place et on a mis les mains en éventail autour des oreilles. Et en mettant les mains de cette manière-là, ça permettait d'entendre les sons d'une manière différente et d'avoir l'impression d'entendre le flot de voitures qui passait en contrebas. Et ça ressemblait au son de la mer. Donc il y a une petite expérience qu'ils ont proposée après aux passants, c'est d'aller écouter la mer au Pérou. Parce qu'on peut la voir du Pérou, mais par contre l'entendre c'est difficile, sauf avec ce petit stratagème qui permettait d'entendre la mer à proximité.
Vous avez déjà entendu le bruit de la mer au Pérou ?
Le bruit de la mer ici ?
Ben non.
Vous voulez bien faire une petite expérience ?
Vous tendez les oreilles, après vous entendez
les bagues.
Ah non, je l'ai entendu ailleurs, mais pas...
Ici, non.
Ah, si je vais là-bas.
Oui, vous allez entendre.
Et vous faites ça avec les oreilles.
Alors là, d'accord.
On entend, ouais, on entend. L'océan, là, oh là là. Hein ? Ah ouais, on entend le bruit de la mer, t'as raison. Ça, c'est une sacrée expérience. Hein. Formidable.
Je l'entends.
T'entends le vent ?
Ouais. Tout un tas d'expériences, on peut peut-être en donner d'autres.
Alors il y avait aussi Place du Pérou, donc là c'était plus avec les micros. C'était on leur demandait est-ce qu'ils aimaient bien cette place, pas du Pérou mais Place Candole. Non, Place
La Canourgue.
Place La Canourgue. Là, en leur demandant est-ce qu'ils aimaient bien cette place, pourquoi ils l'aimaient, pourquoi ils l'aimaient pas. Donc là on faisait émerger des critères de ce qu'on appelle de qualité sonore d'un lieu. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce lieu? Et donc, suite à ça, ils sont allés interviewer des gens, leur demandant pourquoi ils aimaient ce lieu. Et ce qui ressort de manière générale, c'est le bruit des oiseaux, la présence de sons naturels fait qu'on aime un lieu en ville.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est en ville, c'est une place fermée. Donc là, il n'y a absolument pas de voiture, a priori. Et voilà, il y a des terrasses de café. Donc effectivement, c'est un lieu plutôt pacifique et tranquille.
C'est des sons apaisants et ça me rappelle les paysages de la nature alors qu'on est dans la ville.
Bonjour.
Bonjour.
Comment pensez-vous de cette place ?
Elle est très agréable et pour travailler et pour se reposer parce qu'il y a des arbres, du vent, un peu d'air, du soleil et des sons agréables.
Le recoulement du pigeon. Pourquoi ?
Ah, c'est rigolo ?
C'est pas évident de répondre à votre question.
C'est vrai ?
Parce que... je suis nostalgique de la campagne. Je suis né dans la campagne et... Je cherche ce bruit-là, peut-être.
Ça a duré combien de temps, cette expérimentation avec les sons ?
Alors, la balade en elle-même, ça a duré la journée avec un pique-nique. Donc, on est parti du Pérou en passant Place de la Canourgue, on est rentré dans la cathédrale Saint-Pierre. Donc là, on a pu écouter la particularité sonore des cathédrales avec des réverbérations assez importantes.
Nous sommes devant la cathédrale Saint-Pierre. Elle est grande. Elle sonne. Il y a deux tours immenses avec des gargouilles. C'était les cloches qui sonnaient. Attendez, elles ressonnent. Et il y a une cloche. Il y a des fenêtres aussi. Il y a une porte rouge.
La cathédrale, elle est super belle. À l'intérieur, elle est encore plus jolie.
On On est allé ensuite place de la Comédie, où là, il y a un bruit de fond humain beaucoup plus important, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec la place de la Canourgue. Et du coup, on s'entend moins bien. Il y a plus de bruit. Et en même temps, ça permet de pouvoir discuter sans forcément être entendu de tout le monde. Donc l'idée, c'était de les amener un petit peu sur ces terrains-là, sur une journée, pour ensuite faire de la prise de son et après aller faire écouter tout ça à la radio.
Donc voilà, après ça a fait l'objet effectivement d'une émission sur Radio Pays d'Hérault, qui est une radio associative qui est à l'écart de Montpellier. Ils ont fait, je sais pas, une trentaine de kilomètres, hein. Ils ont traversé la Garrigue, ils sont allés au pied des montagnes, comment ça s'est passé ça aussi? C'était une découverte?
C'était totalement une découverte, parce que déjà il a fallu préparer l'émission. Il ne savait pas ce que c'était qu'une émission de radio, on allait parler dans le micro, donc il fallait préparer tout ça. Donc on a établi un conducteur avec eux, c'est-à-dire qu'en fait il fallait savoir à quel moment on allait envoyer les sons, ils allaient se faire interroger sur leur travail, donc il fallait qu'ils puissent répondre sans forcément passer trop de temps à répondre et surtout à savoir ce qu'ils allaient dire. Donc on a préparé tout ça, on a fait une fausse émission de radio au petit bar dans le local des sorts, pour après aller ensuite à Radio Pays d'Hérault. Donc on est allé en bus et on a passé 3 heures là-bas sur place. Donc ils ont découvert le local radio et beaucoup de stress au début, et après en fait au final ça a bien passé.
C'était une émission directe ou pas?
C'était une émission qui était enregistrée. À me souvenir, c'était pas en direct, non, c'était enregistré, mais on l'a fait comme si on faisait en direct.
Alors le dispositif, c'était quoi? Il y avait le journaliste Adrien, il y avait vous, et puis il y avait les enfants.
Oui, donc il y avait aussi la personne qui dessort, qui est donc l'accompagnatrice du groupe. Donc il y avait le journaliste Adrien, et on était deux avec les 6 enfants. Ils étaient 6 à participer au projet. Donc là, tour de rôle, ils ont répondu aux questions, et entre chaque question et réponse, on envoyait une séquence sonore.
Moi, est-ce que tu peux marcher sur la route pour qu'on entende les bruits de basket?
Comment ils sont venus vers vous, finalement, ces enfants? Parce que, d'accord, vous leur faites participer à une balade sonore, mais comment vous leur avez présenté le projet et comment, déjà, ils sont venus vers vous?
Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, c'est plutôt nous qui sommes allés vers eux. C'est qu'en fait, au départ, on est allé directement dans le quartier à la rencontre des jeunes. Donc, on est allé à la salle de sport avec des micros, on a fait des prises de son pendant un match de football en intérieur. Donc, il y en a qui sont venus nous voir, qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a essayé d'intéresser les jeunes, de les capter. Ça n'a pas trop marché, si ce n'est une curiosité. Et après, on les a invités à venir nous rejoindre pour pouvoir partir sur un projet radio. Donc là, ça a un petit peu échoué. Donc on l'a refait lors d'une journée un peu karting. Donc là, on a été faire du karting avec eux. On a utilisé les micros. On est allé visiter aussi Radio Divergence pour voir un petit peu les studios. Pareil, l'idée, c'était de les amener un petit peu sur un projet radio. Donc là, pareil, ça n'a pas trop marché. Donc on est allé à la rencontre de l'association, une association locale, Essor, et donc qui, eux, ont un public tous les mercredis. Donc là, on leur a demandé s'ils allaient intéresser de travailler pendant les vacances sur un projet radio avec des micros. Donc c'est parti de là. Donc on est allé dans le local, on est venu avec des micros, on a fait des écoutes de son. Et on leur a proposé de dire, on vous passe les micros, on fait une sortie ensemble à la serre amazonienne. Et puis là, vous allez faire des prises de son, des oiseaux, des animaux. Et puis on réécoute tout ça. Et puis si ça fonctionne, si vous êtes intéressé, on pourra partir sur un projet plus long qui se terminera par une émission de radio. Donc là, ils étaient curieux. Et puis on est allé à la serre, on est revenu avec des sons. Ils ont écouté ces sons-là. Et puis on a réussi petit à petit à les amener sur comment on fait un interview, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient, comment on tient un micro, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et on a réussi à continuer dans ce projet-là et aboutir à l'émission de radio.
On l'entend, la principale difficulté finalement, c'est de susciter leur curiosité, de susciter leur envie.
Que ça soit dans des projets radio ou autres, c'est toujours arrivé à les... à les rendre curieux et puis à les rentrer dans le projet, et surtout à ce qu'ils puissent voir un petit peu quelle production ils vont faire. Vu que ça s'inscrit quand même dans le long terme, on n'est pas dans l'instantané. Ça veut dire qu'on fait quelque chose, il faut se revoir, il faut prévoir, il faut s'organiser. Donc c'est là la difficulté du projet éducatif. Donc le micro, ce qui est bien, c'est que c'est un peu nouveau. c'est un outil qu'ils tiennent en main, un peu personnel. Ils vont s'interroger entre eux, ils partent avec un casque. Donc il y a une phase d'accoutumance comme ça, de curiosité qui fait que bah, ils s'y intéressent. Après, le plus compliqué, c'est d'arriver à sortir des sons qui soient corrects, qu'on puisse diffuser à la radio, poser des questions qui soient intéressantes pour l'auditeur. Donc vraiment se mettre dans la peau de l'auditeur. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce que je peux lui amener comme information? Donc, quelles questions je vais poser? Donc, c'est vraiment un travail d'éducation. À prendre la parole, à écouter, à se mettre à la place de l'autre.
Et donc, c'est 6 à 8 jeunes hein, qui vont participer à ces balades sonores et ensuite à l'émission de radio. Dans l'exercice de cet atelier, qu'est-ce qui a été le plus compliqué avec eux?
L'écoute. Justement, on travaille sur la prise de son et l'écoute, c'est assez difficile parce qu'il faut se mobiliser assez longtemps puisqu'on part une journée, même quand on fait des écoutes de son, bah, y a toujours envie de parler, de se couper la parole. Donc on travaille vraiment sur le béaba, c'est-à-dire que ça soit en classe ou même en temps hors scolaire, c'est toujours écouter, pas se couper la parole et puis bah, tenir dans la durée une écoute, quoi. Donc ça, c'était le plus compliqué. Donc tant qu'ils avaient les micros en main et le casque sur la tête, bah, ils faisaient leur prise de son. Puis dès qu'ils avaient fait leur prise de son, bah, ils voulaient le réécouter. Donc il y avait un temps d'attente parce qu'il fallait retourner en salle pour pouvoir réécouter tout ça. Donc il fallait toujours un peu les tenir un peu en curiosité. Donc c'est pour ça qu'on faisait des séquences, des petits jeux durant le parcours.
Et qu'est-ce qu'ils en ont retenu finalement après cette expérience qui n'a peut-être pas été renouvelée avec ce groupe?
Alors on n'a pas renouvelé l'expérience avec ce groupe sur le son. Par contre, l'année suivante, on était sollicité par Essor pour pouvoir faire des activités avec eux, donc qui n'ont pas été menées sur le son. Alors au niveau évaluation, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qu'ils ont retenu, si ce n'est, bah, je me souviens, à la sortie de la radio, en rentrant à la radio, ils avaient un gros stress, ils étaient un petit peu en situation de fragilité, comme ça, de se dire qu'on va m'écouter et tout. Il y a un moment de prise en main et puis beaucoup plus assuré pendant l'émission. Et puis au sortir de l'émission, bah, ils étaient contents d'avoir fait ça. Au départ, il y avait, deux jeunes filles qui avaient 8 ans. Leur mère ne voulait pas qu'elles participent. Un projet radio, on va t'entendre à la radio, tout ça. Donc on a dû discuter avec elles. Au final, elles sont venues. Et c'était très timide. Et puis je pense que le résultat leur a plu de pouvoir s'entendre, faire des prises de son. Ils étaient très, très libres dans la ville. Ils interrogeaient tous les gens. Enfin, c'était assez marrant de les voir déambuler comme ça dans la ville avec leur micro.
Bonjour. Vous poser une question. Savez-vous à quoi sert une écho dans une église?
Pour que ça résonne et que tout le monde entende le curé parler.
Sans micro. Parce qu'avant, il n'y avait pas de micro. Voilà. D'ailleurs, dans les théâtres romains, il y avait un mur. Ils construisaient un mur derrière en pierre pour que ça puisse résonner et qu'on puisse entendre.
Et après, ils n'ont pas fait de proposition eux-mêmes en se disant on va changer de sujet ou...
J'ai pas le souvenir, bon, c'était en 2008, hein, pas de souvenir de se dire on refait quelque chose, on repart ensemble, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Non, il n'y a pas de souvenir de ces moments-là. Bon, c'est des moments qui se passent quand même sur des temps hors scolaires, donc des moments ludiques. Il y a une tendance un petit peu quand même à on consomme des activités, on fait des sorties. Donc là, c'était quand même des sorties orientées quand même sur la prise de son. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est intéressant, ils sont curieux, mais si on leur propose une sortie où il n'y a pas des micros, où on fait du kart, ou une sortie à la serre, ou une sortie au bord de la mer, on peut prendre les micros, mais des fois, bah, c'est ce qu'on a fait, on est allé à la mer avec eux, bah, les micros, voilà, on les a laissés sur la serviette, ils ne s'en sont pas servis, quoi.
Le chasseur de son, c'est celui qui fait de l'enregistrement par plaisir, dans le temps de ses loisirs.
Donc vous avez initié ces ateliers sonores, donc qui sont en lien avec l'APIEU, donc qui s'occupe de l'environnement urbain. Donc effectivement, vous étiez en plein dedans, hein, puisque vos sons étaient à l'intérieur de la ville. Mais pourquoi finalement vous vous êtes intéressé à ça, vous particulièrement?
Bah, une sensibilité, C'est-à-dire, en fait, je suis sensible un petit peu à l'écoute des sons et à prendre plaisir à écouter les sons. Et aussi, j'étais un petit peu formé à ça à Lyon avec une association qui s'appelait, qui s'appelle toujours Assyrène. Et donc, on a été formé à l'écoute et j'ai un peu passé les mêmes caps que les enfants qu'on a accompagnés. C'est-à-dire, au départ, il y a une espèce de curiosité, d'intérêt. Et puis, ça reste assez... en surface, et après on peut apprendre plein de choses au niveau du son, au niveau de l'écoute, du ressenti, de se rendre compte qu'en fait un son c'est une vibration physique qu'on peut ressentir physiquement quand c'est beaucoup de basse et que le son il vient taper contre les murs, donc en fait il est constamment modifié, que les perceptions sonores sont complètement différentes en fonction de la culture, des gens, de notre état de fatigue. Là, c'est un domaine assez large. Donc, puis l'idée aussi de pratiquer l'écoute avec nos oreilles directement, les yeux bandés, je trouvais ça intéressant. J'avais fait ça à Lyon dans les Traboules, donc ces petits couloirs là qui relient les immeubles, et c'était une expérience sonore assez intéressante. Donc c'est du sensoriel. Nous à La Pure, on utilise beaucoup l'approche sensorielle par les sens pour découvrir, pour entrer en matière dans la ville, plutôt que d'apporter tout de suite des discours sur la complexité urbaine. Donc le son, c'est mon domaine, comme il y en a d'autres aussi au niveau de La Pieux, hein, sur les déchets, l'eau, mais je suis un peu plus spécialisé sur le son.
Nous nous quittons avec un extrait de ce qu'il est possible de faire en design sonore à partir de sons urbains. Pour avoir des infos sur La Pieux et la diversité de leurs ateliers, eh bien, c'est sur internet www.apieum.org. Thank you.